DW, le club de l'auditeur.
Le magma, la température, c'est autour de 1400-1500 degrés. Donc ça peut fendre même les pierres.
Il avait fait plus de 600 morts lors de son éruption la plus meurtrière en 1977, puis était à nouveau entré en éruption le 17 janvier 2002, provoquant la mort d'une centaine de personnes. Et voilà que le volcan Nyiragongo, dans l'est de la RDC, s'est à nouveau réveillé et a déversé sans crier gare deux coulées de lave, voilà une semaine, sur certains quartier de Goma, une agglomération de 2 millions d'habitants située entre les pentes du Nyiragongo et les rives du lac Kivu. Depuis jeudi, près de 400 000 personnes ont évacué la ville où l'on craint une nouvelle éruption du volcan et peut-être une explosion due au gaz contenu dans le lac Kivu. Des témoignages et éclairages d'auditeurs et internautes, mais aussi d'un expert congolais dans ce club. Bienvenue à toutes et à tous. Un grand bonjour d'abord à tous ceux qui expriment leur intérêt et leur fidélité à nos programmes, comme Hassan de New York aux États-Unis, Justin de Cara au Togo, Olivier de Boaké en Côte d'Ivoire, Shérif de Mamou en Guinée, Aïchatou de Niamey au Niger, Céline qui nous suit depuis le lac Tchad et Daniel de Bukavu en RDC. Et puis nos meilleurs vœux à tous ceux qui ont soufflé une bougie de plus ces derniers jours, comme Hassan d'Agadir au Maroc, Abdoul Wali de Cotonou au Bénin, Amani de Tillabéri au Niger, Abakar de N'Djamena au Tchad et Émile de Gisenyi au Rwanda. Le volcan Nyiragongo s'est donc réveillé voilà une semaine dans le nord Kivu en RDC. Il a détruit entre 900 et 2500 habitations, fait environ 20 000 sans-abri ou déplacés et provoqué la mort d'au moins 32 personnes. Une catastrophe donc pour beaucoup d'habitants de Goma. Dadi Feno, que j'ai joint dans la ville, en témoigne.
Chez moi, la lave n'a pas atteint la maison, ça s'est limité au moins à 500 mètres de la maison. Sauf qu'il y a des tremblements qui continuent. Le gouvernement nous a donné des conseils à suivre, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont perdus, il y a des morts aussi la route à cause des accidents. Mais même il y a parmi mes frères qui ont été affectés, leurs maisons se sont brûlées.
Et est-ce qu'il y a eu justement des abris qui ont été, peut-être des salles de classe ou des choses comme ça, qui ont été mises à disposition des personnes qui se sont retrouvées sans toit?
Bon, sincèrement, beaucoup sont dans des familles d'accueil, mais jusque-là, le gouvernement, même les ONG, n'ont pas conçu les abris pour les sinistrés.
Et est-ce qu'il y a des aides quand même qui viennent? Parce que pour les gens qui ont tout perdu, qui n'ont donc plus aucune affaire ou plus rien à manger, n'ont plus de revenus aussi, parce que certains ont perdu aussi leur petit commerce ou leur local où ils travaillaient. Est-ce qu'il y a déjà eu des aides qui se sont mises en place ou qui sont en train d'être mises en place?
Bon, pour le moment, il n'y a pas encore les aides. Donc, il y avait une aide qui devait être là. C'était pour un député qui a voulu faire un don de nourriture pour la population sinistrée, mais bon, à cause de la politique du pays, on l'a bloqué, qu'il ne puisse pas donner.
Vous savez si à Goma, les hôpitaux sont en état de fonctionner et qu'ils ont aussi le matériel nécessaire pour soigner, par exemple, des grands brûlés ou des gens qui ont peut-être inhalé des gaz toxiques ou des cendres, des choses comme ça?
Oui, donc dans notre hôpital général provincial, quand même, ils ont quelques matériels bon, qui n'est pas vraiment du tout, bon, je ne peux pas dire bien conditionné parce que, tu vois la situation du pays, il y a d'autres matériels qui manquent. Bon.
Oui.
Avec les pays qu'ils ont, mais quand même, ils ont assisté les malades. Parce que même s'ils ont dit à toutes les malades donc d'aller à l'hôpital, une fois s'ils sont touchés, même les femmes enceintes, les vieillards, s'ils n'ont pas de comment fuir, qu'ils aient à l'hôpital. Donc on avait même mobilisé les médecins du milieu d'aller aider les hôpitaux qui sont surchargés.
Et en ce qui concerne les familles qui ont été éparpillées, les enfants qui se sont perdus aussi, est-ce qu'il y a déjà des structures qui sont en train de se mettre en place, des structures locales ou peut-être internationales, par des organisations humanitaires, pour retrouver ces enfants, par exemple?
Oui, il y a des structures locales et aussi des structures internationales. Par exemple, les CICR qui s'occupent des enfants qui sont BMP, qui sont sortis vers le Rwanda là-bas, parce qu'il y a d'autres gens qui ont traversé le Rwanda. Voilà, c'est eux qui s'occupent. Mais ici, localement, il y a aussi d'autres structures locales, des ONG locales qui s'occupent de ces activités. pour identifier les enfants qui sont perdus de leur famille.
Et est-ce que vous êtes informé maintenant régulièrement à la radio ou à la télévision de l'évolution des choses?
Oui, on est informé, je suis informé.
On vous dit, on vous donne des bulletins régulièrement dans la journée pour vous tenir au courant de la situation et de ce qu'il faut faire le cas échéant?
Oui, on nous est informé dans des radios, dans des téléphones aussi. Donc il y a d'autres organisations qui donnent les communiqués à travers les réseaux mobiles, les téléphones mobiles pour ceux-là qui n'ont pas de télévision, de radio dans leur maison. Donc quand même, presque tout le monde, il y a la majorité qui ont des téléphones mobiles. On envoie les messages pour que les gens puissent prendre les précautions s'il y a quelque chose qui arrive, parce que même avec les tremblements, donc ça crée des fissures presque partout dans la ville, ça fait un peu paniquer la population.
Bien sûr.
Vraiment, c'est les paniques dans la population, même aussi cette psychose est toujours la peur du volcan.
Oui, mais écoutez, Dadi, je vous remercie, je vous souhaite surtout bon courage alors. J'espère que le fameux volcan va se calmer et laisser un peu la population tranquille.
Oui, vraiment, merci beaucoup.
Au revoir, Dadi.
Beaucoup expriment leur compassion pour les habitants de Goma, comme Patrick de Bukavu. Ils souhaitent que les autorités trouvent rapidement une solution pour aider la population à faire face à cette situation dramatique et espèrent que la RDC et le Rwanda voisin travaillent ensemble pour trouver une solution. Faustin, auditeur et spécialiste des questions de l'environnement à Goma, met aussi en exergue la situation sociale des populations concernées par cette catastrophe.
C'est tous ceux qui sont dans des maisons construites en dur et en étage qui sont plus exposées. Alors nous qui sommes dans des maisons en plage, ce n'est pas vraiment trop risquant.
Oui.
Aussi avec l'hypothèse selon laquelle ces tremblements présageaient encore une nouvelle éruption, mais jusque-là, nos scientifiques disent que dans les cratères, il n'y a plus vraiment une grande quantité de magma. C'est que ce tremblement n'est pas dû au mouvement des magmas pour annoncer une nouvelle éruption. Ce tremblement signifierait donc le magma, ça cherche à rentrer à son niveau initial.
C'est ça.
Et c'est pourquoi il y a ce tremblement-là. Même s'il n'y avait pas de moyens qui étaient préconisés, alors on avait quand même dit aux gens de se diriger vers Sake. Donc c'est vers le nord ou ouest, vers un village avec 7 km. Et ceux qui devraient avoir les moyens aussi pouvaient traverser le Rwanda. Donc les gens se sont quand même débrouillés pour aller. Comme c'était aussi de façon précipitée, c'est pourquoi il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient perdus. Il y a même un véhicule, les gens s'étaient entassés rapidement pour fuir. Le véhicule avait aussi connu un accident avec 9 morts comme ça.
Et certaines personnes ont été évacuées à l'hôpital, mais l'hôpital principal, il a été fermé, non?
Non, mais l'hôpital général, ce n'était pas fermé. C'était toujours ouvert aux malades et aux personnes âgées. Il n'était pas menacé parce qu'il est, disons, à l'ouest de la ville. Et pourtant, la direction de la lave, c'est presque l'est. Bon, en tout cas, les activités tournent au ralenti. Vous voyez, la route Kiravita et Goma est coupée.
Oui.
Ils ont déjà amorcé les démarches pour trouver une société qui va déjà frayer ce chemin-là. Alors, ils nous ont dit qu'ils travaillent avec un délai de 10 jours au maximum. Si terminent dans 7 jours, ça peut être mieux. Et même les commerçants qui venaient de l'autre côté, ils sont bloqués là-bas avec des produits de première nécessité qui commencent même à pourrir.
Eh oui, bien sûr.
Plus ça continue, plus ça devient cher aussi.
Bien sûr. Et l'alimentation en eau potable?
Ah là, bon, puisque la partie qui était endommagée, là, la partie du nord où il y a au moins 5 villages impactés, là en tout cas il n'y a pas de l'eau, hein, de l'eau potable presque pas. Certains canaux de canalisation de l'eau étaient calcinés, alors c'était grave vraiment. Parce qu'il y a une partie du courant électrique qui alimentait la régie des eaux pour maintenant pomper de l'eau. Cette partie-là du courant électrique, là, c'est pas cabine, là, qui était aussi endommagée. Ce qui diminue aussi la capacité de la régie des eaux de servir maintenant la communauté. Ils ont déjà étudié, évalué les dégâts et ils vont maintenant se mettre à pied d'œuvre.
D'accord.
Et il y a aussi l'équipe gouvernementale qui était arrivée parce que si... L'observatoire n'a pas pu informer la population parce que selon eux, ils n'avaient plus le financement, ils n'étaient plus payés il y a 6 mois et même certains appareils ne fonctionnaient pas. C'est pourquoi on était seulement surpris là, une soirée à 19h, on voit les faits, tout ça. Vraiment, on n'a pas prévenu la population. Alors, ils sont venus maintenant avec quelques moyens, ils ont maintenant payé les scientifiques de l'observatoire 3 mois d'arriéré. Certains matériels, j'ai écouté le scientifique là, que certains matériels sont arrivés pour détecter les séismes et tout ça.
Oui.
Bon, bientôt, Ils vont maintenant voir comment aider les communautés qui étaient sinistrées ou impactées.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu, évidemment. Leur maison, leur commerce et tout.
Tout, vraiment. C'est horrible quand on voit comment ça coule, là. Donc, il y a un cycle, là, entre 20 et 25 ans. Selon certains chercheurs, disent que en principe, ça devrait entrer en éruption en 2028. Mmh. Et que ça, c'est comme si... ils appellent ça un avorton d'explosion. Et c'est pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. En temps, ça peut être mieux. Que nous, la population, nous comprenions que nous sommes dans un milieu à haut risque. On commence toujours à s'approcher davantage du volcan. Les villages ne font que seulement gagner du terrain à côté du volcan. Donc ça aussi, ça fait nous donner une matière à réflexion. Et de ne pas construire des maisons en dur ou en étage ici. Ça serait une façon de savoir comment vivre avec ce volcan.
Mais vous dites que les gens s'approchent de plus en plus du volcan. Pourquoi ? Parce que par manque de place, et la population augmente toujours plus, ou parce que ces terrains aussi sont très fertiles ? Parce qu'on sait que les terrains volcaniques, normalement, sont assez fertiles.
Oui, ils sont assez fertiles, mais c'est seulement dû à l'explosion démographique. Parce que ceux qui occupent ces quartiers-là, ils ne font même pas l'agriculture, c'est seulement... avoir des parcelles suite à l'explosion démographique. Alors ils sont contraints de s'approcher de plus en plus. C'est seulement les villages environnants qui fournissent seulement de vivre à la ville. Donc en général, la population qui vit à Goma n'est pas cultivataire. Donc c'est seulement l'explosion démographique qu'on s'approche de plus en plus du volcan.
Oui, et il n'y aurait pas moyen de délocaliser plutôt vers le bas, justement, vers des terrains plus fertiles et que la population ne prenne pas autant de risques?
Bon, vous savez, l'homme parfois... Bon, aussi un autre problème. L'insécurité qui règne au niveau de l'intérieur. C'est seulement à Goma, vous voyez, les groupes armés, oui. Qui sont en Kiv, ça pile une centaine. Alors il y a aussi cet exode-là rural, qui est dû suite à l'insécurité.
Oui.
Alors, bon, quand les gens arrivent en ville, bon, ils sont contrés, ce sont des moyens, ils sont contrés de trouver des petits lopés de terre là. Là où c'est moins cher que si vous avez des moyens de trouver un bon terrain en pleine ville, alors ils sont contrés aussi de rester dans ces endroits-là.
D'accord. Faustin, mais je vous remercie pour tout cet éclairage. Et je vous souhaite alors bon courage et surtout d'être prudent. Hein.
Oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les encouragements. Au revoir, bye.
Je me souviens en 2002, lors de l'éruption volcanique comme celle-ci, une autorité dans la foulée avait déclaré qu'il fallait délocaliser la ville vers Massissi. Mais c'est une réalité naturelle qui nous rattrape de part et d'autre, car le gaz méthane dans le lac Kivu est aussi dangereux, nous écrit Benjamin dans le Kivu, qui s'en remet à Dieu pour protéger le pays. Plusieurs internautes plaident aussi pour une délocalisation, ce que refusent pourtant certains habitants de Goma, comme Divine qui écrit sur Facebook « Jamais ». Mais on ne laissera notre ville.
Oh, 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 oh.
Quand je pense aux enfants,
Africa n'a plus
soin. Dans mon akanisima,
on dit Africa, on met ça dans ma boca.
On est débordé par ces événements, affirme Jean-Baptiste de Kinshasa. Il faut voir comment venir en aide à nos concitoyens de Goma, dit-il, interpellant les autorités pour prévenir ce genre de catastrophe naturelle. L'OVG, Observatoire volcanique de Goma, doit être doté de tous les moyens nécessaires, suggère-t-il. Alors j'ai demandé justement à JJ Matumaini, géophysicien à l'IRO, comment les scientifiques peuvent prévoir qu'une telle éruption volcanique va se produire.
Il y a beaucoup de éléments qui prédisent l'éruption volcanique. C'est-à-dire la sismicité, on devait voir déjà des tremblements de terre, on devait voir des tremblements, ça signifie que les sismogrammes devaient être embrayés par des mouvements sismiques, des ondes sismiques. Ça pouvait déjà donner la première information. On pouvait aussi voir l'émanation des gaz volcaniques, mais aussi des panaches de fumée. Des fumées, ça devrait en tout cas s'orienter selon une certaine direction. Et tout ça, c'est des signes. L'augmentation des températures aussi devrait normalement jouer.
C'est-à-dire l'instrument principal, c'est le sismographe qui fait des courbes et on se rend compte, un petit peu comme quand on fait un examen cardiologique, on prend un petit peu le pouls des hommes, du cœur, et là ce serait le pouls du volcan.
Ça, oui.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits tremblements de terre qui se font enregistrer à des stations. Et avant l'éruption, ça devait aller sur le plan du volcan. Il devait avoir une augmentation de fissures. Et à côté de ça, il y a aussi le champ magnétique terrestre qui devrait diminuer. Ça signifie quand le magma monte à la surface, le champ magnétique devrait normalement diminuer.
Mm-hmm. Et vous parliez de gaz aussi. Est-ce que ces gaz sont visibles ou est-ce qu'on peut les sentir? Est-ce qu'on sent une odeur, par exemple? Parce que souvent,
il y a
du soufre.
Il y a des odeurs comme d'œufs pourris. Comme j'ai dit tantôt, les fumerolles, ça signifie qu'on pouvait voir une panache de fumée qui s'oriente dans une certaine direction par rapport au vent, bien sûr. Oui, ouais. Par moment, des situations comme ça arrivent, on sent l'odeur de soufre, mais ce n'est pas à dire que le volcan va entrer en éruption. Il faut toutes ces données conjuguées, les données de sismologie, les données de géodéformation, les données de température, les données de magnétisme, tout ça conjugué devrait déjà donner des signes précurseurs.
Et est-ce que vous qui êtes sismologue aussi, est-ce que cette activité volcanique, elle est liée aussi avec les plaques tectoniques qui bougent? Parce qu'on sait aussi que l'Est de l'Afrique est sur le rift, enfin c'est une zone de faille. Est-ce que l'éruption d'un volcan a à voir avec l'activité de ces plaques tectoniques ou non?
C'est-à-dire que ce territoire volcanique est atypique. En fait, nous sommes maintenant en train d'enregistrer des séismes lunaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande magnitude. Mais à l'époque, il y avait des éruptions ici, on ne sentait rien, mais les appareils pouvaient enregistrer. Les tremblements, maintenant, ça se fait sentir même ici à Bukavu, ici à Luiro, même dans des zones plus éloignées que Luiro. Ça se fait sentir vraiment. Alors, nous sommes en train de vouloir aussi travailler parce que toute l'équipe de géophysique de CERN Luiro, nous avons des stations éparpillées. Nous sommes en train de prendre et collecter ces données-là pour que nous puissions aussi faire un rapport qu'on va envoyer au ministère pour que nous puissions aussi donner l'information par rapport à tout ce qui se passe ici.
Oui. S'il peut y avoir aussi des mini tremblements de terre qui vont de pair avec cette éruption.
Oui, je pense qu'il y a une implication. Par moment, les tremblements de terre, il y a des types volcaniques, il y a aussi des types tectoniques. Mais par moment, il y a des connexions entre les deux. Donc, ça, il y a transfert des champs de contraintes par moment. Quand les séismes tectoniques peuvent être au point de se déclencher, mais avec les champs de contraintes de la zone, ça peut encore se transférer de la zone tectonique pour que ça puisse générer au moins un tremblement tectonique.
Oui.
Mais tout comme il y a des séismes tectoniques qui peuvent faire à ce que ça puisse pousser les magmas à sortir à la surface. Voilà.
Et est-ce qu'il y a un moment où on peut dire qu'un volcan, il est quasiment mort, qu'il n'y aura plus jamais d'éruption? Ou est-ce que ça n'existe pas? Il vit toujours et qu'il y a des cycles de quelques années, je ne sais pas, de 10 ans, de 20 ans, qui permettent de prévoir qu'un volcan va à nouveau rentrer en éruption? Parce que la dernière fois, je crois, c'était en 2002.
Oui, la dernière fois, c'était en 2002. Mais bon, il y a eu d'autres éruptions pour l'autre volcan, parce qu'il n'y a pas qu'il y a une blague qui entre en éruption, il y a aussi Nyiragongo. Mais souvent, ça s'oriente vers le parc. Et comme il n'y a pas d'impact dans la ville de Goma, les gens pensaient que ça ne pouvait pas faire des dégâts ou alors ainsi de suite. Mais maintenant, ici, pour l'instant, l'activité peut commencer avec Nyiragongo, ça fait Nyamragira, ça peut commencer par Nyamragira, ça fait Nyiragongo et ainsi de suite. Bon, il y a des volcans quand ils s'éteignent. C'est comme ici, à l'époque, ici, Kaouzi est bien grand. Volcan, mais maintenant ça s'est éteint. On ne sait pas si c'est vraiment complètement éteint. Il y a des volcans qui entrent après 1000 ans, 1500 ans, et ils reviennent en éruption. Il y a des cas comme ça. Mais pour la zone volcanique de Virunga, c'est vraiment récurrent. Il y a des volcans qui sont actifs vraiment.
Alors vous parliez tout à l'heure des gaz, évidemment. Il y a la lave et puis aussi les cendres. Alors quels sont les conseils que devrait suivre la population? Est-ce qu'il faut par exemple porter des masques pour ne pas respirer les poussières, par exemple des cendres? Tout ça c'est toxique, j'imagine. L'inhalation des gaz et de la cendre pour les poumons, par exemple.
Ouais. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens de ne pas utiliser de l'eau de pluie. Parce qu'à Goma, il y a des gens qui utilisent l'eau de pluie pour la cuisson et quoi, et une autre chose. Alors, le conseil, ce n'est pas utilisé parce qu'il y a des produits qui viennent du volcan, qui entrent dans la haute atmosphère. Quand ça quitte le volcan, ça peut encore descendre avec la pluie. Et si les gens utilisaient ça, c'est vraiment toxique, c'est pas bien. Mmh. Mais aussi, le gaz, il est expansif. Alors, il peut prendre n'importe quelle direction. Mais d'autres peuvent rester dans la zone là, mais ce n'est pas vraiment à grande ampleur. Non. C'est que par moment, ils peuvent d'abord respirer. Ce n'est pas que ça va vraiment trop affecter, non.
Ça risque pas de brûler les poumons.
Ce n'est pas encore un danger à ce niveau.
Ah, d'accord. Et est-ce que, par exemple, la population ne doit pas manger manger, consommer de légumes, de salades, de choses qui ont été justement contaminées par les cendres qui sont tombées ou par les gaz ou par les pluies justement.
Oui, la population doit d'abord bien laver les légumes avant de consommer, bien les laver avant de préparer, parce qu'en fait, les déchets ou alors les gaz et toute la suite, il y a des éléments toxiques qui retombent et par la différence de densité, ça va quand même se tomber et se poser sur l'effet des légumes. Alors, on doit vraiment être prudent et laver régulièrement ces légumes-là, oui.
Quels sont autrement les moyens de prévenir, de donner l'alarme? Comment les habitants doivent se comporter si on sait qu'il risque d'y avoir une nouvelle réplique? Est-ce qu'ils doivent dormir dehors ou plutôt évacuer très vite? Quels sont les conseils de comportement à adopter?
Bon, il y a un service de protection civile qui est là localement. Comme à Bukavu, il y a un service de protection civile qui travaille avec des centres de recherche. Alors, c'est à ce service-là de donner l'alerte et d'informer la population. Et ils ont tout un plan d'évacuation de la population. La population devrait se fier au gouvernement. Quand on donne déjà l'alerte, la population devrait déjà, par exemple, fuir, partir vers le Rwanda ou alors venir à Bukavu, des choses comme ça.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un risque que si le volcan s'écoule vers le lac, par exemple, avec les gaz qu'on connaît qui sont dans le lac, est-ce qu'il y a un risque d'explosion majeure?
Oui, ça dépend. Parce que maintenant, il faut savoir le gaz méthane à quelle profondeur. Bon, lui, il n'est pas encore une menace. Parce que quand ça explose, si ça explosait, en fait, ça va aller à notre atmosphère. Ce qui est bizarre, c'est le CO2 qui, par la différence de densité, peut retomber et ça affecte toute la population. Maintenant, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que si ça communique avec le lac, ça va dépendre de la profondeur où se trouve le gaz méthane.
Oui.
Et maintenant, ça peut donner une bonne explosion. Si c'est vraiment une grande quantité de lave qui tombe dans le lac, ça va vraiment exploser et ça va créer un deuxième dégât. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a un moyen peut-être de dégazer ou est-ce qu'il y a un moyen de prévention d'un tel cas?
Moyen de prévention, oui, bon, on avait déjà dit qu'il y aura un projet de dégazage, mais est-ce que ça a commencé? Oui, du côté rwandais, ça se dit qu'on est en train de dégazer. Je n'ai jamais personnellement été là, mais je sais que les Congolais aussi sont en train de penser comment dégazer.
Oui. Dernière question, oui. Est-ce qu'il y a un risque aussi peut-être de débordement du lac? Parce qu'on a vu dans les fissures qu'il y a de l'eau qui remonte. Est-ce qu'il est possible que, du fait de cette activité souterraine, le lac aussi déborde?
Le lac déborde, bon, je ne sais pas encore affirmer parce qu'en fait, il y a une différence de niveau. En fait, le lac est encore plus bas que ça. Il faut que vraiment des recherches, mais je sais que, contrairement aux eaux du lac Tanganyika qui sont en train aussi de faire autre phénomène, et de l'eau du lac Tanganyika sont en train de les monter, oui. Mais ici, pour le lac Kivu, par rapport au niveau de la ville, en fait, des vases communicants, je ne pense pas que ça peut monter. Mais il faut que toujours mener des recherches.
Et vu ce contexte géophysique de la région, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de laisser les gens continuer à habiter là? Bon, même si on ne sait pas quand sera la prochaine éruption, ça peut être dans 20 ans, mais il y a certains de nos auditeurs qui ont dit, voilà, il faudrait délocaliser parce qu'à chaque fois, on répare les hôpitaux, les écoles, les maisons, mais ça recommence. Alors, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de délocaliser plutôt? Vous pensez que ce serait faisable, ça ou...
Oui, bon, c'est une idée qui me passe par moment à l'esprit, mais moi, je me dis, le Japon a aussi des volcans comme nous et que les gens devraient plutôt apprendre à vivre avec les volcans. Il y a des zones, c'est vrai, où les gens ne devraient pas s'aventurer à construire. Mais il y a quand même des mécanismes ou des façons de faire pour que les gens puissent vivre vraiment avec les volcans.
Quand vous dites vivre avec, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, les gens ne devraient pas, par exemple, pour certaines zones, dire on va construire vraiment un dur parce qu'il y a aussi le coût qui est en jeu. Ils devraient, par exemple, pour certaines régions, construire de cette manière. Dans d'autres régions, construire comme ça parce qu'ils pensaient que ça peut brûler. On va encore recommencer librement.
Si c'est du béton, ça résiste plus au feu, par exemple, à l'incendie.
Non. Le magma, la température, c'est autour de 1400-1500 degrés. Donc, ça peut fondre même les pierres. Ce qui veut dire qu'on peut construire la planche. On sait que bon, les planches sont pas trouvées. Quand ça brille, ça brille. Bon, on veut encore retrouver et recommencer à construire librement. Voilà. Il faut qu'ils finissent par identifier vraiment les fissures, là où la lave peut sortir. Ou alors, peut aussi voir comment faire. Parce qu'à un certain moment, il y a des zones qui sont habitables et il y a d'autres zones qui ne sont pas habitables. Voilà.
D'accord. Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Selon les autorités, une éruption est toujours à craindre et cette fois peut-être même au cœur de la ville, surgissant directement du sol dans la ville sous laquelle passerait désormais le magma. Le scénario le plus catastrophique serait une éruption limnique en cas de déstabilisation du gaz sous le lac Kivu et où l'interaction entre la lave et l'eau du lac provoquerait alors une gigantesque explosion. Le président rwandais Paul Kagame, très préoccupé par la situation du volcan Nyiragongo en RDC, a appelé vendredi à un soutien mondial et urgent face à la crise humanitaire causée notamment par l'exode de centaines de milliers de Congolais, y compris vers le Rwanda. Voilà, si vous voulez réagir à cette émission ou me suggérer de traiter un thème qui retient votre attention, vous pouvez par exemple m'envoyer un courriel. Mon adresse, c'est mireille.drone@dw.com. Je vous rappelle que pour réécouter nos émissions en podcast, il suffit d'aller dans la rubrique médiathèque sur notre site internet. Notre adresse, www.dw.com/français-sans-cédille. Merci de votre fidélité et à très vite, j'espère. En attendant, restez vigilants et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Tolembi na bitumba, tobo ile lonzala, tosingi totonga Afrika, avenir ya bana. Batele koyo ya bana, heritage na bango, tosingi demokrasi.